vais vous faire un petit récapitulatif de tous quelques points qu'on avait évoqués. Et cette suite-là, elle vient nous parler tout simplement de comment marcher à la manière de Christ. Ça, c'est le thème global. Et ensuite, on a 7 piliers principaux qui nous aident à suivre cette manière-là et basés tout simplement sur la vie de Christ, basés tout simplement sur ce qu'il a vécu avant la croix. Parce que souvent, on est là, on arrive à la croix, et puis à la croix, et à la croix, et à la croix. Oui, à la croix, il y a eu énormément de choses, il s'est passé beaucoup de choses, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir comment Christ a vécu en tant qu'homme sur cette terre, comment il a affronté les difficultés, comment il a écouté la voix de Dieu, comment il a fonctionné dans la vie spirituelle, parce qu'il est notre exemple. Et la parole de Dieu nous dit toujours qu'il faut être comme lui. Donc s'il faut être comme lui, c'est lui qu'il faut regarder. Effectivement, nous avons tous les évangiles, la parole de Dieu entière est une révélation. Mais la vie de Christ, c'est juste waouh, non? Alors si vous n'avez pas suivi toute cette série, c'est tout simplement, vous pouvez réécouter sur le site, il n'y a aucun problème. Toutes les prédications sont enregistrées. Donc, le premier pilier qu'on avait évoqué, c'était la clarté de la vision. Il faut avoir dans notre vie chrétienne une vision claire. Parce que si on n'a pas une vision claire, on court dans tous les sens. On fonctionne un peu à gauche, un peu à droite, on ne sait pas où on va et finalement on ne porte pas de fruits. Or, Christ a dit, il est nécessaire que vous puissiez porter du fruit. Il faut que ce que je vous ai donné se multiplie. Il attend de nous qu'il y ait quelque part un rendement dans notre vie spirituelle. Alors, la clarté de la vision, c'est que notre âme peut facilement se disperser, se perdre dans nos projets humains, dans nos objectifs personnels, dans la construction de notre foyer, notre vie. Voilà, il y a tellement de choses qu'on perd parfois le fil. Et oui, on a accepté Christ, oui, on aime Jésus, oui, on aime venir à l'église, oui, on aime bien le célébrer, mais quelque part, est-ce que notre vie est en adéquation avec ce en quoi on croit et ce que nous professons? Est-ce que tu me suis toujours? Alors, c'est ne pas avoir de vision, c'est comme un navire sans gouvernail, les vents se lèvent, alors tant qu'il n'y a pas de vent, tant que tout va bien, c'est ok, on est bien, on peut aller faire trempette. On a des personnes qui nous viennent des îles, hein, quand tout est calme, voilà, on peut y aller. Mais quand les vagues commencent à souffler, à arriver, là, c'est compliqué. Moi, quand j'étais à La Réunion, j'étais hyper frustré, je vous le dis. Parce qu'on voit ces beaux paysages, on voit l'eau, on voit les vagues, on a envie de plonger. Puis j'étais avec un réunionnais, pure souche, et il me dit, Alexis, là, tu vas pas, il y a les requins. J'ai dit, quoi? Moi, j'ai envie d'aller plonger, il y a une belle vague, il y a une belle houle. Vous voyez, mais sans gouvernail dans votre bateau, vous êtes pris, vous êtes ballotté, vous allez n'importe où, le vent vous guide ou là où il veut, vous avez perdu cette clarté. Et nous, on veut être de ceux qui savons où nous allons. Alors Dieu ne bénit pas la confusion. Lorsque tu es confus, tu sais pas, il n'y a pas de bénédiction, c'est pas possible. Dieu bénit tout simplement la vision dans laquelle tu t'engages et qui est animée de Christ. Et bien là, Dieu va bénir, va pourvoir à tes besoins, va t'encourager, même si ça paraît difficile, même si ça paraît fou. Eh bien, tu sais que Dieu est avec toi parce que tu suis cet objectif-là. Est-ce que tu me suis? Oui, Dieu ne bénit pas la confusion. Le pilier 2, c'était la maîtrise de soi. On a parlé du combat intérieur que tout homme vit. On a tous le même cœur ici, hein. Quand je dis tous le même cœur, c'est qu'on est fait de la même manière. Peu importe notre culture, peu importe d'où nous venons, notre cœur est tortueux. La Bible nous en parle. Peu importe tout ce que nos parents nous ont éduqués, la manière, les bonnes choses qu'ils nous ont dites, notre cœur est tortueux. Moi, je le vois avec mes enfants. Les jeunes parents, vous êtes là, il y a des jeunes parents ici. Et les plus anciens parents, ils sont passés par là. Vous savez bien que vous passez votre temps à dire à vos enfants ce qu'il est bon de faire, mais vous prenez aucun temps pour leur dire ce qui est mauvais, ils le font quand même. C'est inné. Faire des bêtises, ils y vont. Ils tentent, ils essayent. Et vous, mais ce serait bien que tu fonctionnes comme ça, mais il faut que tu manges correctement, mais oui, on leur apprend le bien. Mais on voit que le cœur a une tendance à partir dans certaines voies qui finalement ne sont pas correctes. Ça va? La maîtrise de soi, c'est dire non à ce qui me plaît maintenant et c'est dire oui à ce qui porte un fruit éternel. C'est de ça dont on avait parlé. Il faut que je puisse me canaliser, me maîtriser pour épouser les plans de Dieu pour ma vie. Sinon, ma chair aura le dessus. Je veux être vainqueur de ma chair. Tu veux être vainqueur de ta chair? Déjà, est-ce que tu es conscient que ta chair, parfois, elle t'embête, hein? Parfois, c'est difficile. Moi, j'ai eu, il y a 2-3 semaines, non, allez, un mois et demi, parce que je ne suis pas très bon dans les dates, hein, okay, me repérer dans l'espace, c'est compliqué pour moi. 3 ans, c'était il y a une semaine, et inversement. Ma femme, elle me dit, c'est pas possible, il faut que tu fasses attention. Mais il y a, allez, 2 mois, oui, 2 mois, j'ai dit, je veux prendre une résolution. Je vais changer ma façon de manger. Parce que mon corps a besoin de bonne nourriture, j'ai des petites inflammations à gauche, à droite. Et puis, je vais manger ceci, ce. J'ai fait un programme, un merveilleux programme, jour après jour, 4 jours, on commence comme ça. Et puis, c'était après le jeûne et prière. Je m'étais dit, jeûne et prière, comme ça, je vide toutes les mauvaises choses. Et ensuite, j'attaque avec une bonne alimentation. Bah, écoutez, ça n'a pas tenu une semaine. Ma passion pour les burgers est revenue à son plein. Et j'ai craqué. On est plein de bonnes intentions, on est plein de bonne volonté, pourtant, nous sommes tellement faibles. C'est juste ? Oui ? Le pilier 3, c'est la persévérance dans l'épreuve. On a vu que Jésus, à Gethsémané, a connu la solitude glaciale des grands combats spirituels. Il était tout seul. Les autres, ils pionçaient, tranquille. Et lui, il était tout seul. Il a souffert, comme personne n'a jamais souffert, il suffit d'aller lire, à en transpirer des gouttes de sang, l'angoisse, la peur, la crainte, tout l'a envahi, complètement submergé, immergé. Il était seul. Et parfois, dans la vie chrétienne, tu seras tout seul dans tes combats. Même ton mari ne te comprendra peut-être pas, sera un soutien, même ta femme, avec qui tu dors, ton pasteur, oh oui, laisse tomber, il ne t'a même pas vu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu dois accepter que parfois tu seras tout seul. Et c'est ta persévérance, c'est ton attitude de foi qui va faire que tu seras capable d'aller au bout des choses. Et c'est dans ce combat-là que Dieu va t'amener une nouvelle maturité spirituelle. Il va te transformer, il permet certaines situations pour que tu sois complètement transformé. Mais si tu commences à bouder, mais personne ne vient me rendre visite, et personne ne me soutient, et de toute façon, lui, il ne m'a pas souri dimanche matin, il ne m'a pas dit bonjour. Ben là, tu joues le jeu du malin, tu vois. Tu joues le jeu du malin, tu t'apitoies sur ton sort, tu te plains, et là, c'est une faille dans ta vie, et puis tu vas sombrer. Et vous savez comment fonctionne le malin, il nous sépare, il nous isole pour qu'on soit complètement perdu dans nos pensées. Et à nouveau, le cœur est tortueux, et on dérive. D'accord, donc la solitude. On blâme personne, mais on reste fidèle avec Dieu. Le pilier 4, c'était la prière qui transperce. On a parlé de cette prière qui n'est pas mécanique, mais celle qui ouvre le ciel. J'irai écouter, parce que ceux qui aiment bien prier, ils aiment bien ce genre de prédication. Mais cette prière qui te permet de pénétrer dans la présence de Dieu, qui vraiment n'est pas un devoir religieux, quelque chose qu'il faut accomplir. Il faut venir le mercredi soir parce que comme ça, on va voir que moi, je suis un homme ou une femme de prière. Non, c'est vraiment ce désir de rencontrer Dieu dans cet espace qu'est la prière que Dieu nous a donné. Il a dit, le voile est déchiré, tu peux entrer dans ma présence, rentre dans ce temps de dialogue avec moi. Confie-moi tous tes fardeaux, toutes tes faiblesses et tu verras si je ne vais pas accomplir quelque chose pour toi. Mais souvent, nous, on veut des réponses instantanées. Donc, on cherche le prophète de l'Église. Il est où? Il est là dimanche, ça ne va pas dans ma vie. Une petite parole qui va m'encourager. Parfois, on cherche à ce que, vous voyez, ça vienne d'ailleurs que du temps qu'on a spécifiquement avec Dieu dans le lieu secret. Et pourtant, la Bible nous dit, rentre dans le lieu secret, ferme ta porte. Parce que celui qui voit là, qu'est-ce qu'il va faire? Va répondre. Mais on passe cette étape pour avoir du instantané. Donc on a parlé de cette prière. Pareil, je vous invite à aller voir. Et maintenant, on va arriver à 2 piliers. Donc on a vu 4 piliers. Et on va avoir 2 piliers qui touchent au cœur même de notre relation avec Dieu et avec les autres. Le cœur même de ta relation avec Dieu et de la relation avec les autres. C'est 2 piliers que le monde moderne a totalement, presque totalement abandonné. Mais sans lesquels Dieu peut pas t'ouvrir les portes et sans lesquels tu peux pas voir Dieu et tu ne peux pas être un témoin de qui il est. Tu ne peux pas être semblable à son image. Donc le pilier 5 qu'on va voir, c'est la pureté et la sainteté intérieure. Tout ce qui ne se voit pas. C'est là où tout commence dans le secret, dans le secret de ton cœur. Et le pilier 6, c'est la vie de service et d'humilité. Là où tout s'accomplit dans la foi. Alors, ces deux piliers-là, c'est comme le battement de cœur de Jésus, tu vois. Quand tu regardes Christ, sa vie de service, son humilité parmi les hommes, c'est qui il était profondément, c'est son essence même, son humilité. Mais on n'en parle jamais, on parle de Jésus, sauveur, celui qui libère, celui qui lève les malades. Ah, ça, on l'entend beaucoup, mais son attitude de serviteur. L'un va garder, le premier pilier va garder ta relation avec Dieu vivante. Et le deuxième pilier va garder vraiment ce caractère que tu dois avoir dans le monde. Alors, on y va pour le pilier 5. Retiens ces deux phrases qui résument un petit peu mon propos. Ce que tu caches t'affaiblit, ce que tu confesses te libère. Ce que tu caches t'affaiblit, ce que tu confesses te libère. La deuxième phrase, c'est pas seulement propre en apparence, mais pur dans le secret. T'as retenu, c'est bon? Pas seulement propre en apparence, mais pur dans le secret. Alors aujourd'hui, la pornographie est devenue une addiction silencieuse. On en a beaucoup parlé avec les jeunes. On a eu tout un séminaire, des séminaires et des séminaires de la jeunesse. Il n'y a pas que la jeunesse qui est bouleversée par ça, mais c'est une porte d'accès pour le malin, pour détruire notre identité en Christ, notre destinée en Christ. C'est silencieux, même dans les églises. On a décidé d'en parler, on a décidé de prendre du temps. Et je sais combien ça a fait du bien au-delà de notre église. Les jeunes nous ont dit, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, on a besoin, on ne sait pas comment faire. On a donné des clés, puis ça a aidé bon nombre. On caresse souvent le péché antérieur tout en gardant une belle apparence, tu vois. T'arrives à l'église, t'es bien sapé, mais qu'est-ce qui s'est passé quand t'étais tout seul? Aujourd'hui, dans le monde, on parle de tolérance et de liberté, mais on a complètement oublié le mot sainteté. Sainteté. On chantait tout à l'heure, on a chanté des chants forts. J'étais là, j'étais pris, je dis « Seigneur, waouh !» Et on a chanté dans ta présence, « Il n'y a pas d'ombre en ta présence. » Il n'y a pas d'ombre dans la présence de Dieu. Et là, j'ai commencé à sonder mon cœur et j'ai dit « C'est vrai, quand ta présence arrive, quand tu es là, tout ce qui est en moi, ce n'est pas juste une sensation, on est bien, alléluia, on chante en langue et on fait des arcs-en-ciel spirituels. Ce n'est pas ça. » C'est quand la présence de Dieu pénètre ton cœur parce que tu l'accueilles, ça chasse automatiquement les ténèbres. Et s'il y a encore du compromis dans ton cœur, ben dis-toi qu'il y a une phrase simple qui est difficile à entendre, mais c'est que Dieu n'habite pas dans une maison sale. Et quand tu es vraiment face à toi-même dans la présence de Dieu et que tu considères ce qui est en toi, que tu es face à la sainteté de Dieu, il y a des choses qui craquent, tu es obligé de déposer. C'est ça la présence de Dieu manifeste. C'est pas juste « Ah, oh, je me suis fait du bien !» C'est que ça te transforme, la présence de Dieu. Moi, il y a plus de 15 ans de ça, j'étais là, et puis j'étais un jeune, j'étais dans mes compromis, je faisais plaisir à papa, maman, et machin, et je suis venu à un culte, et je me souviens, on était là, et le pasteur, il y a la présence de Dieu, et je vois que tout le monde est touché, j'ai ma sœur qui part en langue, l'autre, il tombe par terre, il y a des parents qui viennent chercher leurs enfants, ils arrivent là, ils tombent par terre, il y avait une atmosphère de Dieu. Ceux qui avaient peur du Saint-Esprit, ils sont tous partis. Ils se sont reculés parce que tu comprends, quand il y a la présence de Dieu, tu vas devoir assumer des choses. Et moi, je dis, maintenant, je vais faire un pas. Et ce pas-là, Seigneur, j'aimerais que tu me touches pour une fois. Alors que je ne me souvenais plus que j'avais été touché combien de fois quand j'étais jeune. Et là, je me souviens, j'étais pile là. Et j'ai dit, je m'avance. Et là, la puissance de Dieu est tombée sur moi, mais dans la sainteté. J'ai senti la sainteté du Père qui arrivait sur moi. Et j'ai commencé à trembler, je suis tombé à genoux. J'ai dit « Arrête !» J'ai hurlé « Arrête !» Je ne peux pas supporter ça. Je suis tellement sale. J'ai senti ce contraste entre moi et Dieu. entre la pureté de Dieu qui voulait rentrer dans ma vie, mais tout ce qui était bloquant en moi-même. Et là, je pleurais, j'avais l'impression que tout le monde vivait la même chose, mais j'étais tout seul en train de pleurer. Or, quand on a 18 ans, qu'on est jeune, qu'on s'habille bien, et qu'on est devant tous les autres jeunes, ça casse notre orgueil et notre fierté, hein, les jeunes. On ne veut pas s'avancer devant les autres. Moi, j'ai été comme ça. Surtout, je ne m'avancerai pas à l'église, il y a mes parents. Il ne faut pas qu'ils voient qu'il y a un problème chez moi. Oui, on a des raisonnements qui nous bloquent. Ça peut être des choses très bêtes. Et là, la sainteté de Dieu. Et là, il s'est retourné, il est venu me voir. Et il m'a dit ce que j'avais prié un an auparavant, seul dans ma chambre. Il me dit, maintenant, est-ce que tu lâches prise? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu es prêt à abandonner cette vie de péché? Et j'ai crié, j'ai dit, oui! Et puis j'ai cru que c'est bon, là. Là, j'ai été touché par Dieu, l'année va commencer. Et puis je suis passé par un an de désert, où Dieu a brisé mon orgueil, brisé ma fierté, changé mon caractère. Quand je dis mon caractère, je suis toujours le même. Mais changé, vous voyez, tous ces nœuds qu'il y avait en moi. Et ma vie a commencé spirituellement. Est-ce que tu me suis? Cette sainteté de Dieu, ce n'est pas juste du plaisir. Je suis dans mon jacuzzi spirituel, tout va bien, tu me ramènes un petit soda. Ah, dans cette église, c'est une église de réveil, quand celui-là chante, ah, qu'est-ce que j'aime. C'est bien tout ça. Oui, c'est bien, oui, nous sommes modernes. Mais la sainteté de Dieu transforme ton cœur, bouleverse ta vie. Ah, c'est dans le secret que tout se joue. Dieu s'est souvenu d'une prière seule dans ma chambre, dans le secret où j'avais été sincère. Tu te souviens, il y a un an, tu m'as dit ça. Aujourd'hui, est-ce que tu dis oui? C'est dans le secret que tout se joue. Amen. C'est là que les chaînes se forgent ou se brisent. Quand tu choisis le compromis, quand tu choisis le péché dans ton secret, tu te lis de chaînes. Mais quand tu déposes à Dieu, tu te libères tout doucement. Amen. L'exemple de Jésus était parfaitement pur. Mais ce n'était pas juste une question de moralité extérieure. Beaucoup de grands penseurs nous disent que Jésus était a bien existé, mais qu'il n'était pas le Fils de Dieu, mais que c'était quelqu'un d'une moralité qui dépassait sa génération, qui dépassait tous les penseurs de l'époque, toutes les religions, que c'était quelqu'un au-delà de tout ça. Mais nous savons que c'était le Fils de Dieu, et nous savons qu'il était parfaitement pur. Ok ? Alors, c'est pour ça qu'il a pu déclarer, Jésus a déclaré en Jean 14, 30, quand Satan est venu, vous lirez, hein, c'est toute une histoire, mais il ne s'est pas laissé séduire et il a pu dire quoi? Il a pu dire, je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. C'est-à-dire que toutes les paroles que les disciples pouvaient dire, qu'ils pouvaient aller chercher ses failles, mais va pas à la croix, reste avec nous, on est tellement bien dans ta présence. Lui dit, je ne parle plus avec vous, vous savez, parce que vous êtes animé de quelque chose qui ne vient pas du Père. Vous avez de bonnes intentions, mais vos bonnes intentions ne sont pas alimentées par le Père. Et moi, je ne peux pas écouter ça. Mais vous devez savoir que lui, là, Satan, il n'y a rien en moi. Il peut rien réclamer dans ma vie. Le problème pour nous, c'est que nous, on est fils et filles du péché à la base. Et Satan, il vient constamment réclamer. Hé, toi, tu te souviens, tu as regardé ça, ça t'a fait du bien, hein? Viens. Tu te souviens quand t'as critiqué l'autre, ça t'a fait du bien de critiquer l'autre, là? Viens avec moi, parce que là, t'es pas... Voilà, lui, il t'a fait une crasse. Et il vient chercher les failles comme ça. Il vient tout simplement s'agripper, il te rappelle ça. Et on doit se battre constamment avec ça. Tu me suis? Mais Jésus a pu dire, moi, t'as rien en moi. T'as rien en moi. J'arrête de parler avec vous. Il dira, hein, arrière de moi, Satan, à Pierre. Imagine, mais papa la croix. Arrière de moi, Satan, cette pensée n'est pas la pensée de Dieu. Je l'évacue. Jésus était sans masque, sans duplicité, sans compromis. Mais parfois, qu'est-ce qu'on a de compromis dans nos vies? Moi, le premier, hein. Et dès que ta vie, elle rentre dans un compromis, tu sens que ta foi commence à s'étioler, tu sens que tes choix sont un peu biaisés, tu sens que voilà, tu n'es pas dans ce chemin où Dieu peut t'approuver. Jésus était pur dans ses pensées, dans ses intentions, dans son cœur. Il n'a jamais nourri le mal en secret. Pas une fois. Pas une fois, il s'est dit, mais les pharisiens, ils vont vraiment me faire du mal, là. Ils savaient ce qui allait lui arriver. Je vais les corriger 2-3 fois. Oui, quand vous lisez les évangiles, il était toujours juste vérité. Vous vous souvenez de cette histoire, hein, quand tout le monde veut lapider cette femme, et puis lui, il arrive, il s'arrête et il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il ne commence pas à déballer, mais hey, toi, tu te souviens ce que tu as fait ? Imaginez, vous avez toute la connaissance, vous savez, il aurait pu y aller à coup de parole de connaissance, à coup de révélation, calmer tout le monde, spirituellement. Et là, il commence à écrire au sol, comme ça. Et une fois, j'ai entendu un pasteur, on ne sait pas ce qu'il écrivait, hein, qui a dit, moi, je pense qu'ils étaient en train d'écrire leur péché au sol. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne peux pas. Mais, vous voyez, c'est Jésus. Il s'approche, mais il n'est pas attiré. Il va vers le pécheur, mais le pécheur ne l'influence pas. Il va vers les plus démunis, mais c'est lui qui les aide. Et nous, parfois, on veut servir Dieu, mais on part dans des trucs complètement perdus. Alors, quelle est notre responsabilité? Vous savez que dans ces piliers-là, j'aime bien mettre l'accent sur ce que Dieu a fait. On est parti du principe que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En tant qu'enfants de Dieu, dans les lieux célestes, il y a toutes sortes de bénédictions, c'est à nous d'aller les chercher. Mais il faut qu'on ait l'attitude de Christ, la marche de Christ pour pouvoir en bénéficier. Dieu a fait, maintenant quelle est ma responsabilité dans chacune de ces situations? Donc, ta responsabilité dans ce domaine, dans ce pilier, c'est de veiller sur ton cœur. Je ne peux pas veiller sur ton cœur à ta place. Tu ne peux pas veiller sur mon cœur à ma place. C'est à moi de me connaître, c'est à moi de me sonder. Ensuite, c'est de cultiver une pureté sincère et sainte, même dans le secret, surtout dans le secret. Parce que quand tu es avec des chrétiens qui parlent de Dieu, qui sont remplis de foi, tu es rempli de foi, et quand tu es tout seul, la foi s'étiole. Ça veut dire que ta foi dépend de ton entourage. Sauf que ma foi doit dépendre de Dieu et de mon intimité avec lui. Et que quand je suis avec un chrétien qui, comme moi, a une foi solide, prie, cherche le Seigneur, là, on se met à prier, il se passe des choses. Et là où un ou deux sont rassemblés, qu'est-ce qu'il y a? On peut demander ce qu'on veut. Parce qu'on cultive ce désir de plaire à Dieu. Proverbe 4, verset 23, vous le connaissez tous, c'était le verset de notre mariage, hein, chérie, on l'a aimé ce verset, on l'aime toujours. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Si tu veux qu'il y ait des sources qui jaillissent de toi, il faut être capable de discerner en toi ce qui peut être bloquant et faire face. Et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, tu vois mon cœur, tu vois mes faiblesses, je veux abandonner ces choses pour être semblable à toi. » Jacques 1, verset 21. Rejeter toutes sortes de souillures et tout débordement de méchanceté. Parfois, on est méchant. Et parfois, les chrétiens sont méchants. Et parfois, les chrétiens sont méchants vers les autres chrétiens. Bah, c'est pas Dieu. Et si Jésus il serait là, il dirait, hey, « Et toi, arrière de moi. J'ai rien de tout ça, moi, en moi. » Traite ton cœur avant que Dieu ne traite avec toi le jour où tu seras devant lui. Et on a le temps sur cette terre pour traiter notre cœur, pour dire « Seigneur, sincèrement, je veux être semblable à toi. Sincèrement, je veux goûter à ta sainteté. Sincèrement, je veux que tu fasses ton chemin dans mon cœur, dans ma vie, que tu me transformes. » Tu ne peux pas marcher dans la victoire si tu tolères l'impureté dans ta vie cachée. Donc l'impureté, j'ai parlé de choses, ça peut être l'impureté au niveau de la sexualité, ça peut être l'impureté dans tes pensées, dans tes réflexions, parce que tu cultives la rancune, la haine, l'amertume envers quelqu'un, ça c'est impur. Devant Dieu, c'est pas possible. Puis tu viens le dimanche, tu loues le Seigneur, et tu oublies ce que tu as dit, mais Dieu te dit, t'es là, l'église, c'est pour... Et quand il y a la Sainte Cène, c'est pour sonder ton cœur, et dire, c'est vrai Seigneur, j'ai eu cette pensée. On se cache pas. On est sincère. J'ai eu cette pensée. Je te demande pardon. Aide-moi. Parce que mon cœur est faible. Mais en toi, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Ta grâce me libère. Mercredi, on a parlé du fait que, eh bien, nous sommes sauvés par... Waouh, vous êtes en forme ce matin. Ça m'aide beaucoup. Vraiment, vraiment, m'impressionne. Nous sommes sauvés par... Par grâce. Mais par le moyen de quoi? Certains restent dans « je suis sauvé par grâce », mais n'active pas la foi. Ben, tu te désolidarises. par le moyen de la foi. Combien de fois Jésus a dit « Jean de peu » à ses disciples, alors qu'il les avait envoyés, ils vivaient les choses incroyables. Et toi, Jean de peu de foi. Et j'étais dans la louange là et je me suis dit « Mais combien de fois en fait on est là ?» Mais en fait, on a tellement peu de foi dans certaines situations. Jésus, mais Jésus dit « Hey, Jean de peu de foi, élève le niveau de ta foi et tu verras s'accomplir des grandes choses. » On a besoin d'élever le niveau de notre foi parce que c'est le moyen d'acquérir réellement toutes ces richesses qui nous ont été acquises à la croix par le sang précieux de Jésus. Mais si ta foi est faible, tu n'acquériras rien du tout. Tu deviendras un chrétien, cool, comme papa dit, dans les pantoufles, tranquille, mon petit train-train quotidien, mes petites habitudes, mes petits plaisirs. Tu comprends ? Et quand Dieu va te parler, tu ne vas même plus entendre sa voix. Dieu ne tolère pas les compromis. Il veut des cœurs entiers, pas des cœurs partagés. Je répète, tu es responsable de ce que tu nourris en toi. Les images, les pensées, les convoitises, les colères, l'orgueil. Tu ne peux pas blâmer les autres pour ce qu'il y a dans ton cœur. Tu sais, je suis comme ça parce que lui m'a parlé comme ça. Moi, je me suis battu avec ma femme. Chérie, t'en prends pour ton grade à chaque fois, mais là, t'es là, je suis obligé. Du coup, tu pourras me corriger à la maison. Quand elle n'est pas là, j'y vais à fond. C'est toujours gentil. Hein. Vous savez que je vous ai déjà parlé de sa façon de conduire. J'ai parlé de ta façon de conduire. Oh là là. Et en voiture, elle n'aimait pas qu'on lui fasse des queues de poisson, tu vois. Chut, là, oh, mais c'est pas possible. Je dis, t'es chrétienne ou t'es pas chrétienne? Mais parfois, en tant que chrétien, il faut lâcher. Hein. Peut-être que c'est juste, peut-être que tu as raison, mais quand tu réagis comme ça, tu animes une colère en toi. Et le problème, c'est que ça reste et ça devient une habitude. Et c'est des petites choses comme ça qui après vont faire que quand ce ne sera pas une queue de poisson, mais ton frère ou ta sœur en Christ qui ne te rend pas tes 10 000 euros que tu lui as prêtés pour l'aider, tu vas faire comment ? Quand ce sera plus grave qu'une queue de poisson, comment tu vas gérer ça? Vous comprenez? Et Christ, il va dire, moi, j'ai rien de tout ça en moi. Si tu veux être semblable à moi, tu dois abandonner, tu dois laisser passer, tu seras lésé dans certaines situations. Parce que tu es chrétien et parce que tu choisis de pardonner. Donc aux yeux du monde, quand tu pardonnes, tu es lésé, tu es faible. Mais nous, on est fort en Christ, on a un cœur strong, tu vois. On a un cœur qui est inébranlable. Peu importe ce qu'on nous fait. Alors, les clés pour s'en sortir. La pureté n'est pas une utopie. C'est possible. C'est un combat spirituel que l'on peut gagner par la grâce de Dieu. Premièrement, commence par confesser la vérité. La première chose, c'est de confesser la vérité. Le diable agit dans toujours, le diable agit dans le secret. Mais Dieu libère dans la lumière. Quand il vient, il chasse les ténèbres. Dieu libère dans la lumière ce qui est dit, ce qui est clair et net. Deuxièmement, coupe les accès au péché. Arrête de nourrir ce qui t'empoisonne. Écran, réseau, fréquentation, tout ce que tu veux. Cible. Faut que tu coupes. Dieu ne va pas couper pour toi. Coupe. Faut du courage. Troisièmement, demande, tu as le droit de demander à Dieu un cœur pur. Dieu, je désire ce cœur pur. C'est Psaume 51, verset 12. Vous voyez, ce n'est pas juste un effort humain. David lui-même, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Parce qu'il se rendait compte que son cœur avait des tendances. Il a dit, crée en moi un cœur pur. Et que ce soit chaque jour notre prière de dire, Dieu, ce matin, aujourd'hui, crée en moi un cœur pur. Tu vois cette situation, tu vois mon collègue, tu vois mon patron, tu vois ceci, ça m'agace, ça me révolte. C'est difficile de gérer la situation. Crée en moi un cœur pur. Je veux réagir comme toi, tu aurais réagi. Mais aujourd'hui, j'y arrive pas, mais je veux être honnête avec toi. Seigneur, aide-moi. Et quand tu dis ça, je peux t'assurer que tu vas avoir toutes les situations du monde que tu n'avais pas envie d'avoir et Dieu va dire, vas-y maintenant, je suis avec toi. Réagis bien, agis bien. Sois semblable à moi. Quatrièmement, sois intègre, même seul. Sois pas intègre pour les autres, fais pas juste ce qui plaît aux autres. Sois intègre, même seul, dans ton cœur et dans tes pensées. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, regarde, révèle en toi qui tu es vraiment. Et là, tu as besoin de la crainte de Dieu. Je vous donne beaucoup de trucs là. Oh là là. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la conscience que Dieu voit tout et sait tout et connaît chacune de tes pensées. Et quand tu as conscience que même aux toilettes, Dieu sait à quoi tu penses, qu'il est toujours derrière toi, qu'il te regarde, tu commences à agir différemment. Parce qu'en fait, tu n'es pas tout seul. Donc, il n'y a plus rien qui est caché. Et quand tu comprends qu'il n'y a plus rien qui est caché, tu agis différemment. Cinquième point important, marche avec des frères et sœurs qui poursuivent la sainteté. Moi, récemment, j'ai dit à quelqu'un, écoute, tu vois, je vois que ta foi, elle ne grandit pas. Tu es toujours dans les mêmes problèmes, sans dents de scie. Mais quand je regarde les personnes que tu fréquentes, ce n'est pas des gens qui vont te tirer vers le haut. C'est cool. Ah, dimanche, je suis fatigué, l'église, bon. Ah, tu sais, la carrière, c'est important. Oui, Dieu bénit et pourvoi, alléluia, mais cherche des gens qui réellement connaissent la sainteté, ont la crainte de Dieu, approche-toi d'eux. Et pas cette crainte, attention, hein, de chrétien austère, dans les règles, dans la loi, et puis il ne faut pas. Des gens simples, mais des gens qui ont vraiment ce désir de plaire à Dieu. Et là, tu vas voir, waouh, ça va changer ta façon de voir les choses. La pureté, retiens bien ça, ce n'est pas juste dire mal, dire non au mal. Tu vas me dire, Alexis, c'est encore quelque chose qu'il faut faire. Ce n'est pas juste dire non au mal, on sait ce qu'est le mal, mais c'est aimer le bien profondément. Dire j'aime les bonnes choses. Et parce que j'aime, je fais. Ce n'est pas juste, c'est pas bien, je ne fais pas, ça devient les règles, ça devient légaliste. Mais dire j'aime Dieu, toutes ces bonnes choses que tu disposes devant moi. C'est désirer Dieu plus que tout. Plus que tout. C'est vivre pour lui, même quand personne ne me regarde. C'est bon ? La pureté ? Hébreux 12, verset 1, pour conclure ce pilier-là. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pas recherche les miracles, recherche la puissance, recherche l'onction, recherche ceci, cela. Non, c'est recherche premièrement quoi ? La paix avec tous et la sanctification. Et la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, Jésus-Christ est mort à la croix. Je vous rappelle ce que c'est, son sang a coulé. Il t'offre par la grâce le salut. Tu dis, Jésus, je me reconnais en toi. Je t'accepte dans ma vie. Son sang te couvre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où son sang se couvre, tu es agréé de Dieu. Dieu dit, ça c'est mon enfant. Je ne vois plus son péché, mais je vois ce que mon fils a fait pour lui. Satan te regarde et lui, il voit, il dit, oulala, celui-là, il va vivre différemment. Lui, il va tout faire pour dire, je veux pas qu'il aille dans ce chemin-là. Donc, la Bible nous dit quoi? Que nous sommes saints comme il est saint. Donc, au moment où j'accueille Christ, j'accueille ce sang, j'accueille cette sanctification. Et lorsque la lumière pénètre ma vie, ça chasse les ténèbres, ça nettoie ma vie. Mais quand je décide, au moment même où je décide d'accepter un compromis, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte à qui? J'ouvre la porte à mon ancienne vie. Et je vis un pied dans la sainteté, un pied dans les ténèbres. Mais tu sais qui gagne? C'est le mal. Parce que c'est ton choix qui t'amène là. Et quand tu choisis le compromis, tu vas sombrer. Alors tout de suite, tu te ressaisis. Non! Je suis saint. Je suis enfant de Dieu. Ça, c'est pas pour moi. C'est pas ma vie. Seigneur, je veux aimer ta volonté, aimer tes œuvres, aimer ce que tu veux faire. Et je veux tout simplement m'investir dans les choses qui ont une portée éternelle. Pas seulement dans les choses charnelles et terrestres. Il faut qu'on vive. Mais il faut que je m'investisse dans les choses qui ont une portée éternelle. Ça va ? Tu es avec moi ? Ok, pilier 6. La vie de service et d'humilité. La petite phrase que j'ai notée pour résumer ce point, c'est descendre pour régner. Dans ce monde, il faut monter pour régner. Il faut avoir beaucoup d'argent pour régner. Il faut réussir pour régner. On court après la gloire, les richesses et tout ça. Et pourtant, avec Dieu, c'est tout l'inverse. Il faut descendre pour régner. Il faut servir pour régner. Il faut se faire le plus petit pour régner. Tout l'inverse de ce que tu peux entendre. C'est juste ou pas? Je ne l'invente pas, je ne tire pas de mon chapeau, c'est les évangiles, Jésus, qui explique ces choses-là. Le monde pousse à grapper, à briller, à être vu. On valorise ceux qui se font servir et pas celui qui sert. Et pourtant, Jésus, vous vous souvenez ce qu'il a fait ? Il s'est agenouillé avant le calvaire. Il a pris le tablier et a dit, je vais vous laver les pieds. Et quand tu vas rendre des comptes là-haut, tu sais quoi ? Retiens bien ça. Dieu, il ne va pas regarder à toutes tes réussites, tous tes titres, tous tes doctorats. Même si c'est bien, attention, hein, je ne suis pas contre ces choses-là. Mais il va regarder au nombre de serviettes usées que tu as utilisées. Combien de fois tu as lavé les pieds ? Combien de fois tu t'es agenouillé ? Et là, il va voir ta valeur. Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » L'exemple de Jésus. Il a touché les lépreux, il a mangé avec les rejetés, il a écouté les oubliés, il a choisi la dernière place. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Philippiens 2, versets 5 à 9, s'il te plaît Anna, on lit ensemble. Pour enraciner ça, c'est un fondement, c'est un pilier de notre foi. Si tu mets ça de côté, ta foi est bancale. Philippiens 2, versets 5 à 9, tu le retrouves ? Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis. Reviens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que tu as en toi aujourd'hui, maintenant, au phare, à Lille, à cette minute même, cette seconde même, les sentiments que Christ a dans son cœur ? Parce que s'il est vivant, il vit en moi, il faut que je connaisse ces sentiments-là. Suivant. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est incroyable. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Waouh ! Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus lui-même s'est abaissé pour être élevé. Et toi, tu veux t'élever pour être encore élevé ? Là, ce n'est pas Christ. C'est fou, hein ? C'est dur de prendre ça en pleine face. Mais c'est la réalité. Alors, notre responsabilité, qu'est-ce qu'elle est ? Nous sommes appelés à servir sans chercher de retour. Paul dit en Philippiens 2, verset 3, un peu plus tôt dans juste le verset d'avant, il dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Le service, ce n'est pas quand j'ai le temps. Allô, tu sais, ce serait bien, en ce moment, on organise un truc. Et puis, ah, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est terrible, j'ai pas le temps. Moi, je fais attention maintenant. J'ai pas le temps, ça va pas. Si j'ai pas le temps, c'est que j'ai fait des mauvais choix. D'accord ? J'ai pas le temps. C'est compliqué. C'est notre ADN de servir. C'est aimer en action, servir. C'est pas juste parler. Alors, les bénéfices et avantages. Quels sont les bénéfices et avantages de servir ? Eh bien, tout simplement, Jacques 4, verset 10, il nous dit quoi ? Que Dieu élève les gens humbles, les gens simples. Les gens qui servent. Que deuxièmement, la joie du Seigneur remplit le cœur de celui qui donne. Seigneur, donne-moi ta joie. Vraiment, je suis triste. Et puis réunion après réunion, je réclame la joie du Seigneur. Mais moi, j'arrête de prier. Serre tes frères et sœurs. Tu vas voir qu'en donnant, qu'en voyant que tu es une bénédiction pour l'un et pour l'autre, tu vas être rempli de la joie du Seigneur. Parce que c'est quand tu sers que la joie arrive. Vous êtes triste quand vous êtes... Pas ici, hein. Mais quand vous êtes submergé de boulot, que vous travaillez pour ce système de toujours gagner plus, que ton patron ne te donne pas la valorisation, qu'en plus tu as des mauvaises paroles, t'es heureux ? Dis-moi sincèrement, t'es heureux ? Non ? Pourtant, il faut le faire, je te dis. On doit vivre dans ce monde. Par contre, quand mon frère qui a un problème, je dis, écoute, je prends ma voiture, j'arrive. Et que je vois que si j'étais pas là, sa vie serait compliquée à ce moment-là et que je change les circonstances. Il y a une joie qui m'anime. Ça, c'est la joie de Dieu. Alors, il faut que je libère du temps pour bénir mes frères et mes sœurs, et au-delà des frères et des sœurs, ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que quand je suis en bénédiction pour eux, Dieu me donne encore plus. Je m'occupe des affaires du Père, il s'occupe des miennes. C'est fou. Mais quand je m'occupe de mes propres affaires et que ma tête n'est concentrée qu'à ça, je sombre. Ça t'est arrivé ou je dis n'importe quoi? Moi, ça m'est arrivé. Hein. La multiplication, quand tu sèmes, c'était le troisième, j'ai débordé, c'est quand tu sèmes, Dieu te donne en retour, je viens d'en parler. Le quatrième point, tu as un héritage éternel. Les serviteurs fidèles entendent, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Quand je vais arriver là-haut, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Vas-y, rentre, regarde la pièce que je t'ai préparée. Jésus va venir, il va te prendre, il va dire, regarde la belle baraque que tu as ici. Là, tu as une petite cabane. Mais là-haut, incroyable. Oh, ça va être beau, ça. Celui qui va arriver avec sa grosse baraque, sa grosse maison. Tu comprends ce que... Attention, hein, quand je vous dis ça, c'est dans l'attitude de cœur. Hein. Ce n'est pas parce que tu as une grosse maison que tu es un mauvais chrétien. Hein. Retiens bien. L'attitude de cœur. Mais qui a travaillé que pour lui, il va se retrouver là-haut. Bon, c'est vrai, tu m'as accepté, c'était super. Tu m'as aimé, mais tu as oublié ton premier amour. Regarde là-bas, il y a une petite place pour toi. Voilà. Mais celui qui a travaillé au royaume de Dieu, il sera récompensé là-haut. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est la parole de Dieu. Exemple concret, Tabitha, acte 9, versets 36 à 42. Vous vous souvenez de Tabitha, on ne va pas le lire. Le temps passe. Est-ce que vous connaissez cette histoire de Tabitha, oui ou non? Sinon, je résume. Bon, je résume pour ceux qui ne connaissent pas. Tabitha, elle est là et c'est une femme qui a un grand cœur. Elle est là et tout ce qu'elle a, elle le donne. Il est dit dans la Bible qu'elle donnait beaucoup d'argent aux gens et qu'elle confectionnait, c'était une bonne couturière, et elle confectionnait des habits pour l'un, pour l'autre. Et elle était vraiment bénédiction pour les gens qui étaient autour d'elle. Quand tu étais Tabitha, tu étais béni. C'est fou. Est-ce que je suis une Tabitha, moi? Est-ce que quand les gens sont avec moi, sont bénis? Pose-toi cette question. Est-ce que quand les gens arrivent dans ta maison, ils sont bénis? Eh bien, Tabitha, c'était comme ça. Tout le village la connaissait. Elle meurt. Elle meurt. L'église est pleine, 600 personnes, 900 personnes, tous les villages aux alentours, c'est plein. Mais il y en a, ils vont se dire, là, j'édulcore un peu l'histoire. Il n'y avait pas d'église comme c'est aujourd'hui. Hein. Juste, tout le monde est triste. Et là, il y avait, pas loin, il y avait les serviteurs. Et on va appeler Pierre. Viens, il y a un problème, Tabitha, mais pas elle. Pas elle qui a fait tellement de bien. Comment elle peut mourir? Il pleut sur tout le monde, hein. Et Tabitha, il n'y a plus sur elle. Elle est morte. Pas elle. Tout le monde est triste. Vous voyez, la pensée générale, c'est de dire, mais ce n'est pas possible pour elle. Et là, on va appeler Pierre. Et Pierre, il va dire, OK, il va se mettre avec elle. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, sortez tous. Il va prier. Et il va dire, Tabitha, lève-toi. Et elle va se relever des morts. Ici, je ne suis pas là pour vous dire que Pierre était un ministère d'onction, de puissance. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Tabitha était une servante de l'Éternel. Et que Dieu s'en est souvenu et a dit, sur la foi de Pierre qui a cru, sur le moyen de cette foi-là, je vais opérer le miracle pour sa vie. Pas juste une question d'onction, c'est une question d'une vie, une vie de serviteur. Amen. Ah, Jésus. Alors, pour conclure ce passage-là, si... Une clé stratégique pour nous dans notre vie, c'est de dire chaque jour, il faut que je cherche un moyen concret de bénir quelqu'un. Chaque jour. Tu commences avec ta femme, tu commences avec tes enfants et tu vas voir qu'au plus tu vas bénir, au plus ton cœur va s'élargir. Parce que Dieu va déposer cet amour qui est plus large que juste ma famille, mes enfants. Ça va commencer, je veux bénir mon voisin, je vais lui ramener mes courgettes que j'ai trop dans le potager. Et puis après, tu comprends ce que je veux dire. Tu vas commencer à bénir, 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 ton cœur va s'élargir. Et l'amour de Dieu t'envahit, c'est de plus en plus facile pour toi. Matthieu 25, 40 nous dit « Ce que tu fais pour le plus petit, tu le fais pour lui, pour Dieu. » Alors, je vais conclure. La pureté et le service dans vos têtes, dans nos têtes, ça ne doit pas juste être des cases à cocher pour être un bon chrétien. Mais c'est les deux ailes d'un même oiseau, si tu veux, si je devais donner une image. Si tu en coupes une, tu sombres. Je dois demeurer dans la pureté de mon cœur pour garder ma relation avec Dieu. Parce qu'une fois animé de cette pureté et que je développe l'humilité et le service, là je plane. Mais si je coupe l'un, je me sépare des autres. Je ne suis plus en bénédiction pour les autres. Si je coupe l'autre, je me sépare de Dieu. Je ne suis même plus en bénédiction pour ma propre vie. J'ai du mal à recevoir. Je suis coupé de l'Éternel. Ça va ? Alors aujourd'hui, j'aimerais que notre choix soit de dire, Seigneur, je veux garder mon cœur pur. Et que mes mains soient toujours à ton service, Seigneur. On a levé nos mains dans la louange. Et je pensais à la prédication, je dis, Seigneur, tu vois nos mains. Mais est-ce que ce sera concret lundi matin ? Parce que qu'est-ce qu'on aime quand Jason il nous lâche un petit... Hein, Jason, on aime ta voix, on aime la voix d'Anthony, on aime la louange de notre église, on est tellement bien. Et on lève nos mains. Quand il y a la basse là, qui groove un peu, ça fait du bien. Mais la réalité, c'est que Dieu a vu nos mains. Demain, quand ça va être dur dans mon couple, avec mes enfants, est-ce que j'aurai l'attitude ? Et ça, c'est le plus dur. Alors Seigneur, nous prions ce matin. Ce n'est pas des messages, Seigneur, qui sont là pour nous pousser, Seigneur, nous motiver dans les choses tout simplement de ce qu'on peut produire, mais c'est tout simplement un message, Seigneur, qui nous invite à être comme toi, tel que tu étais. Tu es notre exemple. Et Seigneur, tu étais tellement humble, avec toute ta sagesse, tout ce que tu savais, tout ce que tu étais capable de faire, tu t'en es tenu à ta mission. Ta mission, tu n'as jamais perdu le cap. Tu as béni partout où tu passais, tu étais en bénédiction. Partout où tu ouvrais la bouche, c'était juste et rempli d'amour, Seigneur. Parfois, tu as repris même, mais c'était toujours pour que les autres soient élevés. Alors, Seigneur, on veut te remercier parce que toi, tu t'es agenouillé, tu as lavé les pieds, tu as fait le sale travail, ce que les pharisiens ne voulaient même pas faire. Toi, tu l'as fait. Tu n'as jamais été influencé, Seigneur, par les péchés, par les problèmes des autres, mais tu voulais tout simplement sortir des personnes de leurs conditions en disant, il y a un autre chemin. Seigneur, aide-nous à te servir concrètement. Des fois, on a du mal, on ne sait pas, mais comment je peux servir ? Mais Seigneur, on veut commencer dans notre chambre, dans le lieu secret, pour que notre cœur soit réellement rempli de toi et qu'on puisse vraiment avoir ces actions qui portent un fruit à portée éternelle, Seigneur. On va arriver là-haut et tu vas nous dire, je me souviens quand tu as fait ça, ça t'a coûté, mais tu l'as fait. Et vraiment, tu m'as fait du bien. Seigneur, j'aimerais tellement entendre ça qui sorte de ta bouche quand ça me coûte, quand c'est dur, Seigneur, quand la semaine était difficile, mais qu'on fait l'effort, on fait le petit effort de faire, Seigneur, de faire ta volonté. Seigneur, sois loué. Sois loué, Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'ai donné ce témoignage mercredi. Et cette semaine, c'était la semaine, fin de semaine passée, j'ai eu un problème au travail. Et j'ai dit, je me suis organisé, j'ai passé un coup de fil. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis menuisier ébéniste et j'avais besoin pour un chantier de produits, sauf que tout le monde est en vacances. Et donc, c'est difficile de se fournir des produits. J'appelle un patron d'une grosse entreprise qui fournit des produits et je dis, écoute Alain, ce serait bien que tu me dépannes, est-ce que tu peux me débloquer ce produit et ce produit ? D'accord, bah écoute, voilà. Et je comprends qu'il est en vacances. Il dit, je vais me déplacer jusqu'au siège. Par contre, je ne peux pas venir te les rapporter. Il faudrait que tu envoies quelqu'un. Donc, j'envoie un ami à moi qui est chrétien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Vincent, mon ancien patron, avec qui on travaille toujours. Et il dit, ok, écoute, Alexis, je vais te dépanner, j'y vais. Donc, il me rend service. Je peux te rendre service, je vais te rendre service. Il arrive là-bas. Et il me dit, écoute Alexis, c'était fou, parce que quand je suis arrivé, tout le monde l'appelait, parce que c'est des grosses sociétés, il répondait à personne, il dépannait personne, et moi il m'ouvre les portes pour deux pauvres, c'était deux petits pots, hein. C'est pas une commande de 5, 6, 7 000 euros, c'était 200, 250 euros. Et puis là, il a commencé à déverser toute sa vie à Vincent. Ça va pas avec l'entreprise parce que son père, il a joué en bourse avec l'argent de l'entreprise. Ça va pas avec ses enfants parce qu'ils mettent en procès. Ça va pas là, ça va pas là, ça va pas là. Et là, il écoute et il dit, écoute, Alain, tu sais quoi ? La seule chose que tu peux faire, il dit, t'es croyant ou t'es pas croyant ? Et il dit, ouais, c'est vrai que je crois. Ok, tu connais le message de l'évangile. Ce que je vais te dire, ça va peut-être pas changer la situation, mais ça va changer ton cœur. Et lui dit, pardonne. Il faut que tu pardonnes. Parce que si tu pardonnes, déjà, tu seras bien mieux dans ton cœur, plus à l'aise, et tu sauras mieux affronter la situation. Mais si tu gardes là, tu vas continuer à sombrer dans tes problèmes. Et ce gars-là, c'était un rendez-vous divin pour lui. Vous voyez, quelqu'un, moi j'ai eu un problème, quelqu'un a accepté de me rendre un service, on arrive là-bas, on est en bénédiction. C'est pas beau ça? Dans le travail? Dieu peut te bénir dans ton travail, dans ta réalité, parce que quand tu es dans le travail, tu es dans le monde, et quand tu es dans le monde, tu es un témoignage. Amen.